Bon matin tout le monde. Ça va bien? Vous êtes de bonne humeur? C'est bon ça. Êtes-vous toujours de bonne humeur?
Non?
Vous savez ce que mon épouse me dit cette semaine? C'est peut-être vous le croirez pas là, mais vous irez demander, elle va vous le confirmer, c'est elle qui l'a dit. C'est vrai, j'avais fait la vaisselle, je pense à Ben, non, mais. Elle me dit, tu sais de quoi, toi, Benoît? T'es toujours de bonne humeur. Wow! Elle dit, tu te lèves le matin, t'es de bonne humeur. Dans l'après-midi, t'es de bonne humeur. Quand tu fais la vaisselle, t'es de bonne humeur. T'es toujours de bonne humeur. Elle dit, c'est vrai, ça, chérie? Ah, wow! Mais elle dit, c'est grâce à toi. C'est vrai, t'as dit ça, hein, cette semaine? Ouais. Elle fait signe de tête que oui. Hein? Donc, c'est moi. Est-ce qu'on peut mettre le petit PowerPoint? Et en passant, je sais pas, Pierre, tu te rappelles, mais moi, j'étais à votre mariage, il y a 40 ans, j'étais là. Eh oui. Ouais. Et voyez ce que ça a donné 40 ans plus tard? Hein, quand la jeunesse s'implique, regardez, ça fait des beaux mariages qui durent. Mais je me rappelle. Hein? Puis je me demande si ce n'était pas le premier mariage à lequel j'assistais. Parce que moi, j'ai accepté le Seigneur juste quelques années avant ça. Oui, c'est ça. Bien là, j'avais retourné aux études. Là. J'étais aux études, mais allant dans le ministère. Mais j'avais commencé effectivement dans les années 78-79. Là, j'étais là. Puis après, je suis retourné aux études. Je me rappelle en 80, j'étais au cégep. Je me suis marié en 83, un peu quelques ans, à la petite chapelle à Chouinard-Sud avant d'aller là où ils sont maintenant. Alors, le temps passe vite, n'est-ce pas? Amen. Alors, j'espère que vous êtes aussi heureux que Dieu veut que vous soyez heureux parce qu'il veut qu'on soit heureux. J'ai lu récemment, savez-vous quoi? Que les chrétiens devraient être les personnes les plus joyeuses qui existent sur la terre. Maintenant, je comprends qu'on n'est pas toujours joyeux, là, tu sais, puisque je comprends que nous aussi, on vit des difficultés, puis des problèmes, puis tout ça. Mais ce qu'il voulait dire avec ça, c'était, on a toutes les raisons pour être joyeux. Même dans notre tristesse, on a toutes les raisons. Puis je pense qu'une de ces raisons-là, c'est justement l'amour de Dieu en tant que Père. On a un Père céleste exceptionnel. Et c'est une série que j'ai commencé l'année passée, qu'on a fait, là je vais justement ce matin faire un genre de petit résumé là, pour rafraîchir la mémoire. C'est le cinquième message ce matin, c'est pour ça qu'il y a cinq caractéristiques, il fallait que ça aille en... Non, c'est pas vrai, ça n'a pas rapport. Mais à chaque début de message, je citais tout le temps un extrait du livre de René Laframboise, qui est adopté par le Père. Et là voici un extrait que... va bien avec justement le thème de ce matin, qui sont les caractéristiques de Dieu. Et là, il dit dans son chapitre, c'est le chapitre 5, c'est ça, où il parle du cœur du Père, il dit que les caractéristiques de Dieu sont présentes à la fois chez l'homme et la femme, un peu comme on voit ici dans le couple, qui se réjouit avec son enfant et que, naturellement, ils ont un moment spécial ensemble d'intimité, de joie, parce qu'ils sont une famille, et que, en tant que père et mère, ils expriment cela. Mais voici ce qu'il dit par rapport à ça. Il dit, comme l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, et on l'a vu avec nos origines, entre autres, ça a été remis et valorisé à travers la Genèse. Alors, cela indique une égalité absolue de valeur, parce qu'on a été créés toutes les deux à l'image de Dieu. Les deux étaient nécessaires pour que Dieu puisse se révéler. Alors, le fait qu'il y ait un homme et une femme, à travers l'homme et la femme, dans les caractéristiques propres à l'homme et la femme, même si des fois il y a des similitudes, mais il y a aussi des caractéristiques propres, que ce soit physique ou psychologique et émotionnel et tout ça. Alors, les deux étaient nécessaires pour que Dieu puisse se révéler. L'homme seul n'aurait pas pu exprimer dans sa totalité la personnalité de Dieu. Il fallait absolument la femme. Des caractéristiques qui sont propres à la féminité, par exemple, ce qui est douceur, émotivité, don de soi, intuition, réceptivité, capacité de nourrir, de prendre soin ou de soutenir la vie. Certes, l'homme est aussi capable, généralement, d'exprimer de telles caractéristiques, mais celles-ci sont souvent plus évidentes chez la femme, plus naturelles ou plus souvent exprimées. Hein. Parce que Dieu l'a créé à sa ressemblance, nous réalisons qu'il est un Dieu tendre et affectueux. Comme par exemple dans Ésaïe 66, 12 et 13, Dieu s'identifie à la mère qui console. Donc, Dieu est comme une mère qui console son enfant. Et consoler, ici dans Ésaïe 66, 12 et 13, veut dire littéralement venir près d'eux et partager la douleur afin de la soulager. Et n'est-ce pas vrai que les moments quand un enfant souffre vont être les premières à venir consoler, à venir se mettre à côté et tendrement essayer de alléger la souffrance qui a lieu. Des fois, nous autres, les pères, on dit, bon, OK, c'est correct, là, t'as tombé, là, mais let's go. Hein, on commence, on y va. On passe à l'action. Donc, Dieu a mis en nous ce besoin de la tendresse maternelle, autant dans l'homme que dans la femme. Lorsque nous approchons de lui, de Dieu, nous avons besoin de vivre cet accueil à bras ouverts, chaleureux et réconfortant, qui est plein de douceur. Et là, est-ce que c'est comme ça qu'on voit Dieu? Parfois, il y en a qui ont de la difficulté à voir ces côtés-là de Dieu, pour toutes sortes de raisons, et entre autres, des fois, là, ce qui n'a pas existé dans leur propre famille. Maintenant, les caractéristiques masculines peuvent être décrites par les notions de force, d'autorité, d'initiative, de capacité de créer, de conquérir, de surmonter. Encore là, elles ne sont pas uniquement le propre de l'homme, mais le caractérise généralement davantage que la femme. Le titre de père, maintenant, signifie que Dieu est davantage masculin que féminin. C'est vrai, ça? Donc, il serait 60 % masculin puis 40 % féminin, donnant ainsi à la féminité une dimension de deuxième ordre. C'est ça? Non. Dieu est en fait, savez-vous, 100 % masculin et 100 % féminin. Si Dieu a le titre de père par sa fonction de celui qui règne sur l'univers, celui-ci caractérise aussi le genre de relation qu'il veut avoir avec nous. Le mot « père » invite à une relation intime entre le Créateur et ses enfants. Dieu est fortement attaché à nous. Nous lui sommes chers et nous perdre à ses yeux est pour lui une énorme souffrance, comme un parent qui perd un enfant. Autrement dit, Dieu n'est vraiment pas stoïque, Dieu n'est vraiment pas indifférent, Dieu n'a pas un cœur dur qui est capable de regarder ce qui se passe et de regarder la situation tragique dans la famille de la jeune fille de 13 ans qui a été brutalement assassinée. Dieu est compatissant. Dieu vit cette souffrance-là aussi qui atteint les êtres humains et en particulier aussi ses enfants. Il est prêt à tout pour nous et il ne ménagera pas ses efforts et ne comptera pas la dépense pour nous soutenir et nous secourir dans notre détresse. Il y a chez lui une générosité sans borne qui le conduira à se sacrifier pour nous. On va prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci que ta parole nous aide à emmener des vérités devant nous pour qu'on puisse vraiment renouveler notre façon de penser, renouveler notre intelligence, renouveler même notre expérience de la vie pour qu'on apprenne à te découvrir tel que tu es. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Ça, c'est l'œuvre aussi de ton Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre aussi de ta parole qui est là pour nous emmener à reconsidérer toutes choses à la lumière de la vérité et que nos cœurs puissent être réceptifs à qui tu es vraiment, ô Dieu. Parce que de te goûter à ton amour, d'expérimenter ton amour, c'est exactement ce qui va transformer notre vie. c'est ce qui va nous emmener à vivre non pas sur un réservoir vide émotionnel, où l'on va chercher à gauche, à droite, comme des gens affamés, désespérés, chercher à être aimés par Pierre-Jean-Jacques, mais sans jamais y arriver, Seigneur, parce que l'être humain ne peut pas combler ce besoin fondamental, profond dans notre âme, d'être aimé, d'être chéri, d'être spécial. Et toi, ô Dieu, c'est comme ça que tu veux relationner avec nous. C'est ça que tu veux communiquer à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Et que là, nos cœurs en soient totalement épris, totalement saisis et bousculés, bouleversés et même transformés. Alors, Seigneur, aide-nous encore ce matin à regarder ta parole et que ton Saint-Esprit, justement, aide nos cœurs à entendre et à recevoir ce que tu aimerais qu'on entende ce matin et qu'on reçoive de ta part. En ton nom, Seigneur. Amen. Alors, une petite révision. Le premier enseignement que j'ai apporté, c'était sur goûter à l'amour de Dieu. Combien d'entre vous avez goûté à l'amour de Dieu dans votre vie? OK? Donc, on pourrait dire ici, la majorité ont goûté à l'amour de Dieu. Au moins une fois? Et là, le défi que Dieu veut, c'est que ça soit notre habitude, que ça soit notre état d'être dans la dégustation, si je pourrais appeler ça comme ça. Tu sais, des fois, il y a des activités qui font des activités de dégustation. Mais Dieu voudrait qu'on déguste comme ça constamment son amour, que ça soit ça qui soit régulier dans notre vie et qu'on expérimente ça. Et là, avec cet enseignement-là, ce qui je essayais de faire ressortir, c'est la vérité suivante. Son amour est la source à partir de laquelle nous allons expérimenter quoi? Bien, la puissance de Dieu, la puissance de la croix, la puissance de la parole de Dieu, la croissance, ça veut dire ce qui va nous emmener vraiment à avancer puis à vivre quelque chose de constamment différent, constamment nouveau, constamment qui va nous emmener à nous sortir de notre zone de confort, qui va nous emmener à transformer des aspects de notre personnalité qu'on n'aime pas et que les autres n'aiment pas autour de nous. Et vous savez, quelqu'un qui est transformé, la façon qu'on va le voir, c'est la façon que, justement, il est en train de manifester dans sa vie l'amour de Dieu, dans ses relations avec les autres. Alors, la croissance, la liberté et même la guérison. Tout ça est centré sur l'amour de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu, comprenez? Le plan de Dieu, ce n'est pas un programme de discipline dans lequel il va nous enrôler et à travers lequel il va, un peu comme à l'armée, là, qui va nous modeler et qui va nous emmener à être des petits soldats. Non, Dieu, ce sur quoi il a misé, là, c'est de nous faire goûter à son amour. Parce que lorsqu'on y goûte à cet amour-là, ça nous bouleverse et ça nous transforme et ça nous amène à vivre ces éléments-là. Le deuxième enseignement, c'était connaître Dieu dans son amour de Père. Donc ici, qu'est-ce qui était relié à ça? Ici, c'était de communiquer la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu envers nous. Et l'œuvre, ça, c'est l'œuvre particulière de l'Évangile. Donc, ce qui est la bonne nouvelle, parce que l'Évangile, c'est ça que ça veut dire, c'est une bonne nouvelle. Et bien, cette bonne nouvelle-là était de nous transmettre, un peu comme Paul dit dans Éphésiens. Alors, toutes ces caractéristiques-là, autrement dit, l'immensité, l'infinité de l'amour de Dieu. C'est grand, c'est merveilleux, c'est inépuisable. Et ça, c'est l'œuvre spéciale de l'Évangile. Et là, partout dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, où on peut voir des petites brides, justement, de la grâce de Dieu qui est manifestée, c'est toujours pour nous montrer à quel point Dieu il est incroyablement amoureux de nous, puis à quel point il veut notre bien, puis à quel point il veut qu'on goûte à son amour, puis qu'on soit en relation avec lui. Et quand Dieu était prêt à payer n'importe quoi qu'il était prêt à faire, c'est pour ça qu'il nous a donné son Fils. Il est allé avec le don ultime, il a payé le coût ultime. Mais tout ça parce qu'il veut avoir une relation avec vous. Pensez-y. Dieu veut avoir une relation avec moi, puis il est prêt à y mettre le paquet. Et si on pourrait dire ça comme ça, il nous poursuit pour qu'on puisse finalement goûter à son amour et vivre dans cet amour-là. Donc, il y avait un troisième enseignement qui était une deuxième partie de connaître Dieu dans son amour de Père. Et ici, c'était de découvrir comment le Nouveau Testament, entre autres, les Épîtres, les Évangiles, nous montrent la grâce extravagante de Dieu qui donne largement et sans compter. Puis ça, c'est notre plus grand espoir, puis c'est une expérience qui transforme la vie. Et là, on a vu différents textes là, qui mettaient ça en évidence. Et le dernier message, c'était relationner avec Dieu dans son amour de Père. Et là, ici, c'est la vérité que la présence de Christ en nous et son esprit qui déverse cet amour-là extravagant de Dieu, qui est l'amour extravagant du Père dans nos cœurs, vont raffiner notre amour pour lui. Autrement dit, le défi que Dieu a, c'est pas que l'Évangile veut nous convaincre qu'on ait à aimer Dieu davantage, mais plutôt qu'on ait davantage aimé par Dieu. Ça, c'est ce que l'Évangile veut faire. Il ne veut pas nous emmener à aimer Dieu davantage comme il veut nous emmener à recevoir davantage son amour. Pourquoi que c'est comme ça? Parce que si l'Évangile voudrait nous emmener à aimer Dieu davantage, on n'y arrivera pas. Mais si par contre on reçoit l'amour de Dieu et que là on goûte à cet amour puis on expérimente cet amour-là dans nos vies, là Dieu il sait très bien que lorsque ça se passe, lorsque ça arrive, eh bien là on va aimer Dieu davantage. Et c'est ça que les Écritures enseignent à différents endroits, pour nous rappeler que ce n'est pas qu'on a aimé Dieu en premier, mais qu'on a été aimé par Dieu en premier. Et que ça doit rester dans cet ordre-là. Je dois constamment goûter à son amour, parce que si c'est le cas, bien là, ma vie va s'enligner avec cet amour-là que Dieu est en train de me faire goûter. Et là, ce matin, on commence avec les 5 caractéristiques de Dieu dans son amour de Père. Il y en a qu'on va passer un petit peu plus de temps que d'autres. Il y en a que ça va être un rappel dans un sens de vérité qu'on a vu là, à travers les 4 premiers messages. Mais la première ici, c'est l'amour de Dieu est un amour de repos, de contentement et de délice. Et là, Hélène, elle a même mis le verset de Sophonie 3, 17, et là, elle l'a même mis de 17 à 19. Et là, elle a mis les noms de quelques personnes, dans le fond, pour qui on prie, en disant « Sois sans crainte, Daniel, Bernard, Linda, Jocelyne, Yvon. » Puis là, on pouvait insérer notre nom, Benoît, et ainsi de suite. « Ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera, Dieu sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie tout comme au jour de fête. » Là, j'aimerais ça ici un peu élaborer sur le verset 17. « Il se taira, se reposera avec contentement à cause de son amour. » Ici, ça se trouve être comme plus le verset 19, on dirait dans la section que Hélène a mis dans le bulletin. Moi, c'était le verset 17, alors je ne sais pas si c'est à cause de la version Summer. Mais en tout cas, ici, le verset de se taire, c'est de se reposer avec contentement à cause de son amour. Et là, il se reposait avec contentement. Ici, c'est exprimé par le silence, par le fait que Dieu reste silencieux. C'est-à-dire, il ne grogne pas, il ne se plaint pas, puis il n'est pas agité ou il n'est pas irrité. Le texte ajoute aussi, il se réjouira de toi avec joie, il se réjouira de toi en chantant. Alors, tellement que pour Dieu, lorsqu'il nous regarde, puis là, il nous regarde à travers Christ, à travers son Fils, il est tellement content de ce qu'il voit, il est tellement heureux de nous que ça se traduit de cette façon-là, c'est-à-dire que Dieu, il est paisible, il est relax, et même, il y a comme un chant de joie qui émerge dans son cœur. Alors, parce que l'amour de Dieu est si complet, et si parfait, et si absolu, il ne permettra pas de se plaindre de quoi que ce soit à l'égard de ceux qu'il aime. Dieu ne se plaint pas. C'est incroyable, là, ici, comment c'est exprimé. Alors, le Père est silencieux parce qu'il est heureux, il est souriant, il est chantant. Quand on dit que Dieu se repose dans son amour, cela signifie qu'il est satisfait de ceux qu'il aime et qu'il ne cherchera pas un autre objet plus satisfaisant de son amour. Son amour est complètement comblé en nous regardant à cause de son Fils. Alors, son amour se réjouit de tous ceux qui sont en Christ. Et là, ici, John Owen, qui est un petit livre sur lequel aussi j'ai basé un peu cette série-là, il dit ceci, et là, je vous cite ce qu'il dit. « Dieu se réjouit étant pleinement satisfait de tous ceux et celles qu'il a choisi d'aimer en son Fils bien-aimé. » Il y a deux façons en hébreu d'exprimer le plaisir et la joie que le Père a dans son amour. La première, on dénote d'un côté une émotion intérieure et la joie du cœur que Dieu expérimente, qui est dans le verset. Et là, cette expression-là, ou ce côté-là du plaisir et de la joie de Dieu, ça définit l'intensité ou la force de son amour. C'est un amour qui est d'allégresse et de joie. Donc, ce n'est pas un amour qui est, comme je disais tantôt, stoïque, là. Non, non, il y a beaucoup d'expressions, comme on sait que nous-mêmes, on est capable d'exprimer de l'allégresse et de la joie là, quand on est content, quand on est vraiment heureux de quelque chose. Alors, Dieu ici, lorsqu'il nous voit en Christ, lorsqu'il voit que Christ nous a rachetés et que là, on est en son Fils, alors, il y a une émotion qui est grande dans son cœur, puis il y a une joie qui ressaît dans son cœur. C'est un amour d'allégresse et de joie. C'est la plus haute expression de plaisir dans l'amour qui est ici reflétée. Et deuxièmement, de l'autre côté, ce sentiment qui est intérieur, qui est un sentiment d'allégresse et de joie, bien, il s'exprime à l'extérieur. Donc, il ne garde pas ça à l'intérieur, il est exprimé à l'extérieur et Dieu manifeste de manière audible sa joie avec son son joyeux ou avec le chant. Le fait que c'est écrit ici que il y a un chant qui émerge de cette joie-là. Alors, Dieu prend un grand plaisir en ceux qui ont besoin de repos, qui viennent à Christ pour trouver le repos et qui se reposent en Christ, comme on voit dans Matthieu 11, 25 à 30. Il y a du repos et du plaisir dans l'amour de Dieu. Lorsque le Père appelle son Fils bien-aimé, il ajoute « en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma joie, toute mon allégresse ». Ou en qui j'ai trouvé mon plaisir, c'est-à-dire en qui je peux me reposer étant parfaitement satisfait de lui. Ça, c'est comme ça que Dieu regarde son Fils. Et là, on dit, ben oui, ça c'est normal, Jésus, hein, c'est le Fils de Dieu, il a fait tout ce que Dieu voulait, il n'a jamais fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Comme il dit, j'ai toujours fait la volonté de mon Père. Il n'y a rien de ce que j'ai fait de moi-même, de ma propre initiative. J'ai toujours écouté ce que mon Père voulait de moi. Quel enfant pourrait dire ça à son Père? Papa, j'ai toujours fait ce que tu as voulu de moi. Ça n'existe pas, là, hein? Mais Jésus pouvait le dire, lui. Puis là, on comprend qu'à cause de ça, ben oui, c'est sûr, son Père est totalement satisfait, il est totalement heureux. Il dit, hey, moi, je suis fier de mon gars, hein? Mon gars, là, lui, yes! Le deuxième Adam a fait ce que le premier Adam n'a pas été capable de faire. Il a obéi, il a fait confiance à Dieu, il n'a pas cru les mensonges de l'ennemi, il a fait face à vent et marée et il s'est toujours tenu debout, ou même, on pourrait dire, il s'est souvent mis à genoux aussi. Il a montré à quel point il avait confiance en son Père, puis il a remis sa vie entre son Père, puis il a dit, « Je vais aller jusqu'à la croix et je vais subir les foudres de ton jugement parce que j'ai confiance en toi, Père, parce qu'on a cette relation-là ensemble. » Moi et le Père, on est un, solide, uni. Puis là, la vérité de l'Évangile, c'est quoi? C'est que ce même rapport-là que le Père a avec le Fils, dans Jean 17, Jésus il dit, « Père, je veux qu'ils aient le même rapport avec toi puis avec moi que moi j'ai eu avec toi et que moi j'ai maintenant avec eux. Je veux qu'ils soient un comme nous, on est un. Et comme tu m'as aimé, tu les aimes aussi. » Et là, Jésus essaie même de rassurer ses disciples en disant, « Oui, je m'en vais, mais le Père, il ne changera pas. Il ne changera pas vis-à-vis vous. » Oui, mais nous, on n'est pas parfaits. Nous, on n'a pas obéi à ton Père comme toi, tu as obéi à ton Père. Nous autres, on a plein de fautes dans nos vies. On a plein de problèmes. On a plein de difficultés. Non, il dit, vous ne comprenez pas. C'est ça que je suis venu faire. Maintenant, le Père ne vous voit plus juste en vous-même. Le Père, il vous voit à travers moi. Et là, vous êtes en sécurité. Parce que ce que moi j'ai fait, je vous le donne. Et ma sainteté, c'est la vôtre. Mon obéissance, c'est la vôtre. Puis là, on dit, mais oui, mais nous, on n'obéit pas tout le temps. Dieu, maintenant, nous regarde toujours à travers son Fils. Et il est excité. Il y a un chant d'allégresse dans son cœur lorsqu'il vous regarde. Même quand vous avez de la misère, lui, il sait que ça, c'est temporaire. Mais que l'œuvre de son Fils, il va la compléter. Et il va la compléter, puis ça va prendre le temps que ça prendra. Mais il va la compléter, et ça, c'est la promesse du Père. Deuxièmement, son amour est souverain et librement donné, Jean 3,16. Alors, c'est un amour qui remplit le cœur de Dieu, de désir de nous donner de bonnes choses. Ça, ici, c'est l'idée. Dieu nous donne tout le temps ce qui est le meilleur. Il ne nous donne rien de ce qui n'est pas bon. Alors, l'amour du Père est derrière tout ce qu'il fait pour nous. Il nous aime, il nous a envoyé son Fils mourir pour nous. Il nous aime et il nous bénit constamment par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut nous bénir et nous bénir et nous faire du bien, puis nous faire du bien. Et parfois, il sait même que la meilleure façon de nous faire du bien, c'est comment? En permettant certaines circonstances dans nos vies. Parce que là, il sait que c'est ça qui va labourer notre cœur. Il sait que c'est ça qui va nous aider à nous tourner vers lui. Il sait que là, whoop, on a besoin d'un petit coup de main ici, là, pour que je reprenne mon attention sur Dieu, que je recommence à lire dans sa parole, que je prenne du temps dans la prière. C'est souvent les plus grands moments dans nos vies, ça a été les moments les plus difficiles aussi. Alors maintenant, Dieu il est incroyablement souverain ici, puis il est un père qui a un bon coach, autrement dit. Dieu, il sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin, puis il nous fait tout le temps les choses qui sont nécessaires pour cela. Savez-vous, c'est quoi la différence entre la motivation qui anime Dieu et celle qui consume le diable? Parce que les deux sont passionnés. Le diable, c'est un passionné, puis Dieu, c'est un passionné. Fait qu'ils ont toutes les deux une motivation passionnante vis-à-vis de nous, là. C'est quoi la différence, par contre, entre les deux? Bien, le diable, lui, il désire qu'on l'adore. OK? Qu'on lui fasse confiance, qu'on lui confie notre vie, qu'on vive selon les valeurs qui sont les siennes, et que naturellement, on soit libre. Hein? C'est ça que le diable veut. Il veut qu'on soit libre, qu'on n'ait pas de contraintes, et qu'on n'ait surtout pas à les contraintes que Dieu voudrait nous imposer. Parce que c'est contraignant, c'est restrictif, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, puis là, il essaie de grossir ça. Hein? Pour qu'on puisse se dire, ah ouais, voyons donc, c'est quoi ça, comment ça fait? Mais moi, je veux être libre, moi, je veux m'épanouir, je veux être moi-même. Non, faut que tu represses tes désirs. Ah ouais, faut que je represse mes désirs, mais moi, je suis fait de même, j'ai ça comme désir. Non, faut que tu les represses si tu veux suivre Dieu. Mais si tu me suis, moi, tu peux les vivre, tes désirs. Tu peux les laisser étaler, tu peux être tout ce que tu veux. Avec moi, il n'y a pas de restriction. Laisse-toi aller, mon gars. Let's go. Saute même en bas de l'avion, si tu veux, sans parachute. Essaye ça. Et il va nous encourager. Vas-y, vas-y. Ben oui, tu vas te triper, ça va être incroyable. Il y a une partie de vérité. Hein? Moi, j'étais content que j'avais un parachute. Non seulement un parachute, mais j'étais attaché à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Parce que oui, c'est trippant. Mais j'étais content quand le parachute a ouvert. Vous comprenez? Bon, autrement dit, le diable, lui, c'est sûr que c'est ça qu'il veut. Mais, derrière ça, c'est quoi? Il cherche son propre bien. Et là, il se fout comme dans l'an 40, si vous rentrez dans un mur, si vous écrasez comme une crêpe effoirée à terre, pourvu que vous viviez vos désirs et que vous n'écoutiez pas la voix de Dieu. Alors lui, il n'y a pas d'intérêt en nous, il n'y a pas d'intérêt dans notre avenir, il n'y a pas d'intérêt dans ce qui se passe dans nos vies. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sa haine de Dieu. Et là, plus il peut marquer des points dans ce sens-là, plus il va être heureux. Donc, lui, il n'a aucun intérêt pour nous. C'est un narcissiste pervers. Vous connaissez ça? Un narcissiste pervers, c'est quelqu'un qui pense rien qu'à lui puis qui veut juste faire du mal aux autres. Puis faire du mal aux autres, ça fait, il fait juste plaisir. Mais Dieu, lui, il est comment? Dieu, lui, il veut être adoré aussi. Hein? Il veut qu'on y fasse confiance. Il veut qu'on y confie notre vie. Puis Dieu, il ne veut pas qu'on réprime nos désirs. Qu'est-ce que Dieu veut faire, lui? Lui, il veut transformer nos désirs. Comprenez? Lui, il veut qu'on soit en harmonie. Parce que les mauvais désirs, il sait très bien qu'ils vont nous emmener dans des mauvaises voies puis qu'ils vont nous emmener à vivre des choses qu'on va regretter. Mais Dieu veut nous éviter ça. Puis il sait que de réprimer nos désirs, c'est pas la solution. C'est de la religion. Mais transformer nos désirs pour que tout à coup, moi, je dise, « Hein? » Là, je vais vous donner un exemple. Pas tellement bon. Mais c'est vrai, là, OK? D'aimer faire la vaisselle. Et là, ma femme est témoin, encore. Virer la voir, virer y parler. Au début de notre mariage, moi, j'haïssais faire la vaisselle. J'aimais pas faire la vaisselle. Savez-vous pourquoi j'aimais pas faire la vaisselle? Je l'ai déjà compté, peut-être que vous en rappelez pas, mais vous rafraîchir la mémoire. J'aimais pas faire la vaisselle. Savez-vous pourquoi? C'est parce que j'étais en compétition. C'est fou, mais raide, hein? Moi, j'étais en compétition sur tout, tout, tout. Avant, là. Ah, là, c'est plus de même pantoute, là. Dieu m'a changé en goûtant son amour. Mais moi, j'étais en compétition. Fait qu'à un moment donné, on faisait la vaisselle. Moi, je lavais la vaisselle. Puis en même temps, tu sais, j'étais un peu maladif ses bords. Fallait qu'elle soit bien faite. Fait que je peux pas la faire vite non plus sans qu'elle soit bien faite. Fait que là, je lutte en dedans. Faut que je la lave comme faut. Fait que là, fallait que je la lave bien comme faut, la rince comme faut. Puis là, je la mettais dans le rack à vaisselle. Là, ma femme, elle, avouait que, tu sais, j'augmente la vitesse. Elle se dit à l'intérieur d'elle, Benoît, il a hâte de finir, parce qu'il n'aime pas faire la vaisselle. Alors, elle augmente la vitesse pour essuyer la vaisselle. Là, je dis, c'est pas vrai qu'elle va essuyer plus vite que moi. N'as-tu des gars qui vivent ça? Ah, OK, il y en a un au moins. Bon, ben je suis pas tout seul. Merci, Seigneur. Il y en a d'autres qui avaient ça, cette maladie-là, là. Fait que là, moi, j'augmente, puis elle augmente, puis elle augmente, puis là, moi, j'augmente. Hey, là, je suis frustré. Puis moi, ben quand je suis frustré, ça paraît. Fait qu'elle s'aperçoit même qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que là, elle me dit, ça va-tu? Oui, oui, ça va. T'es sûr que ça va? Oui, 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 ça va. Oui, oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais non, sois pas susceptible de même. Et là, toute la soirée se passe de même, puis moi, je boude, j'y parle pas vraiment, elle me parle, j'y réponds plus ou moins. Là, je vis, là, la frustration en dedans de moi, puis tout ça, tu sais. Elle a réussi à essuyer plus vite que j'étais capable de laver. Alors, c'est pour ça que j'aimais pas faire la vaisselle. OK? On a réglé ça plus tard, juste avant de se coucher, là. Finalement, j'ai ouvert mon cœur et j'ai dit, là, ris pas de moi, chérie, ris pas de moi. Fais pas comme les gens à l'église, là, ris pas de moi. Parce que là, elle, dans le fond, de son côté, puis là, c'est là que ça m'a vraiment, en tout cas, ça m'a vraiment touché parce que là, elle est partie à pleurer et elle a dit, pendant toute la soirée, je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il y a sûrement de quoi j'ai fait de pas correct parce que Benoît, il serait pas comme ça. Il est toujours de bonne humeur. Non, c'est pas... Non, ça a changé, ça aussi. Mais, j'ai dit, c'est vrai, chérie, tu pensais vraiment à ça? Ben oui, je voyais bien que t'avais de quoi, mais je comprenais pas. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, j'aime faire la vaisselle. Seul. Non, mais je ris. Mais non, des fois, je lui demande, viendras-tu essuyer un peu? Parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais moi, je dis ceci à mon épouse. Puis là, les gars, un bon conseil. Je ne sais pas si vos épouses sont comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas... Chacun de nous, on a des choses différentes. Mais moi, pour encourager mon épouse, je dis, chérie, ça me fait plaisir de faire la vaisselle. Puis ça, c'est la vérité, là, quand j'ai dit ça. Okay? Ça me fait plaisir. Elle dit, c'est vraiment... Ça te fait vraiment plaisir? Oui, ça me fait vraiment plaisir. Je relaxe. Vraiment? Oui, je relaxe. Puis c'est vrai. Fait que ça, c'est incroyable. Dieu a transformé mon cœur. Mais c'est ça. Alors, tout ça pour dire que, c'est quoi que je voulais dire à travers ça? Ah oui, c'est ça. Dieu, lui, c'est un père aimant, c'est un berger plein de compassion, d'empathie et de bienveillance. Ça, c'est Dieu. Donc, tout ce qu'il fait, là, tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour notre bien. Et l'ennemi essaie de nous faire croire le contraire. Ça, c'est sa game à lui, c'est sa joute à lui, c'est sa stratégie à lui. Puis malheureusement, souvent, on va mordre là-dedans. Puis on va accepter ça. Mais ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que Dieu, lui, il veut toujours notre bien. Puis il y a, autrement dit, Dieu, lui, tout en allant chercher sa gloire, parce qu'il se glorifie puis il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre, mais c'est jamais à notre détriment. C'est ça qui est fantastique. Tu sais, quand il dit que de riche que Jésus était, il est devenu pauvre, pourquoi? Pour que nous, on devienne riches. Qui fait ça? L'ennemi? Jamais dans 100 ans. Mais Dieu, en tant que Père, il est comme ça. Il aime ça nous faire plaisir. Il aime ça nous enrichir. Il aime ça se sacrifier pour que nous, on puisse goûter pleinement à ce qu'il y a de meilleur. Tu sais, comme je vous avais dit, là, dans le jardin, mettons, c'est pas vrai, là, il n'y avait pas 100 arbres, on ne sait pas combien il y avait d'arbres, mais mettons, il y en avait 100. OK, on va y aller juste là-dessus. Mais là, 99, vas-y, amuse-toi, profites-en. Jouis de tout ce qu'il y a là. J'ai tout créé ça pour toi. Tout ce qui existe, c'est pour toi, dans le fond, pour que tu en profites. Et il y en a un. Touche pas celui-là. L'ennemi vient faire quoi? Il vient effacer les 99 et il vient grossir le seul qu'il ne peut pas avoir. Mais voyons donc! Comment qu'un Dieu bon, grand et compatissant, plein d'amour, un berger qui voudrait ton bien, il t'empêcherait de cet arbre-là? C'est le meilleur de la gang! Tu sais, bon, ainsi de suite. Comprenez? Alors, il essaye de renverser tout ça. Alors, celui-là, on ne prendra pas beaucoup de temps, j'en ai déjà parlé. Son amour pour nous précède notre amour pour lui. Puis il faut toujours garder ça, c'est l'Évangile, c'est ça que la parole de Dieu enseigne. 1 Jean 4, 10 vient réitérer ça. Donc, ça, c'est très important qu'on comprenne qu'il faut toujours recevoir son amour, que son amour a toujours été là en premier et que nous, on répond simplement à cet amour-là. Quatrième chose, son amour est égal à lui-même, il est constant, il est sans favoritisme, il est éternel, il est riche, il est accessible, il est inépuisable. Et là, Luc 15, je pense, c'est le meilleur texte. Il y en a d'autres là, qui peut montrer cette facette-là de l'amour de Dieu. C'est incroyable, Dieu, il ne change pas, il est le même hier et éternellement. Et son amour, c'est la même chose, c'est le même, et c'est le même pour tous ceux qu'il a choisi d'aimer. Donc, tous ceux qui sont ses enfants, ça, c'est tous ceux qu'il a choisi d'aimer, eh bien, chacun de nous, si vous êtes ici aujourd'hui, si vous pensez que Dieu aime plus, Benoît, qu'il vous aime vous, là, c'est faux. Parce que Benoît, il est dans le pastorat, puis vous, vous ne l'êtes pas, puis c'est ça qui m'aime. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport qui on est, quel genre de fonction qu'on a, qu'on ait reçu un talent, 5 ou 10. Ça n'a pas rapport. Dieu nous donne ce que Il nous confie, puis c'est par amour qu'il fait ça. S'il m'en a confié juste un à moi, c'est parce que c'était mieux comme ça. Puis moi, de l'accepter, c'est parfait, c'est merveilleux. Je n'ai pas à chercher à en avoir 5 ou à chercher à en avoir 10, à me comparer avec un autre, puis à essayer d'être un... Ça nous libère tellement, ça. Comprenez? Ça nous libère tellement de savoir que moi, Dieu m'aime, puis il n'y a rien que je pourrais faire que Dieu m'aimerait davantage. Puis il n'y a rien aussi que je pourrais faire ou ne pas faire, puis Dieu m'aimerait moins. Son amour est égal, il est constant. Et ce n'est pas basé sur mon obéissance ou sur mon mérite. C'est sûr que Dieu aime ça quand j'obéis, là. Il n'est pas fou, là. Parce qu'il sait très bien, un, il est honoré, je lui fais confiance, c'est pour ça que mon obéissance est là. Puis deux, il sait très bien que ça, à travers cette obéissance-là, c'est la meilleure chose qui va arriver dans ma vie. Donc Dieu, oui, il veut mon obéissance, mais ça ne change pas son amour quand je désobéis. Lui, il reste constant. Il va juste essayer de me gagner davantage, il va essayer de me rejoindre là où je suis, puis il va essayer de me ramener à l'Évangile, à me ramener à son Fils, ramener à reconsidérer à quel point il m'aime. Ça, c'est comme ça que Dieu est. Il nous aime d'un amour incroyable. Et là, le cinquième, et non le moindre, c'est celui-ci. Son amour est perçu comme changeant. Dans sa réception, Galates 5, 22, et dans son appréciation, Romains 5, 5. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Son amour n'est pas changeant, mais son amour est perçu comme changeant. Est-ce une contradiction? Comment on peut réconcilier les deux? Son amour est constant, son amour est non changeant, puis en même temps, son amour est perçu comme changeant dans sa réception et son appréciation. C'est quoi l'élément ici qu'on rajoute? C'est la perception. Puis là, c'est qui a cette perception-là? C'est nous autres. OK? Donc ici, on rajoute l'élément, est-ce que chacun de nous, même si on est aimé également par Dieu, et que son amour n'est pas dépendant de ce qui on est, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, est-ce que chacun de nous, on va avoir la même expérience pendant notre vie sur la terre de l'amour de Dieu, qui est non changeant, qui est éternel, qui est riche, qui est extravagant, qui est ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est là où est la différence. Et là, voici pourquoi c'est ainsi. Et là, je vais vous donner la petite question. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi chacun de nous, on n'a pas la même expérience de l'amour de Dieu dans nos vies? Malgré le fait que Dieu nous aime d'une manière incroyable et qu'on peut être assis ce matin, puis certains d'entre vous pouvez lutter avec cette réalité-là que peut-être Dieu ne vous aime pas comme vous pensez ou comme vous aimeriez, puis oui, vous entendez ça, oui, j'écoute, mais quelque chose qui manque. Bien, il y a un élément clé qui a émergé lors de la Réforme, dont on parle de 400 ans, là. C'est quand même particulier, et ce qui a amené un grand réveil, vous voyez, ça a été le retour aux Écritures, de redécouvrir l'importance des Écritures comme étant la vérité centrale sur laquelle on base notre vie, là, de redécouvrir l'Évangile à travers ça, de redécouvrir justement l'amour de Dieu qui ne dépend pas de mes mérites, pas du tout, mais qui dépend seulement des mérites de Jésus, de ce que lui a accompli, et que maintenant, est-ce que je vais recevoir ça? Est-ce que je vais recevoir le don de Dieu qui m'a offert à titre spirituel, mais qui dépend entièrement de ce que Jésus a accompli, puis qui là, il m'est offert comme un don gratuit immérité? Donc, la grâce seule, par la foi seule, en Jésus seul, ce qui était un peu les sola de la Réforme. Alors, ici, c'était l'élément clé, là, c'est le suivant. Il existe une distinction entre la vérité et l'expérience de la vérité. Et ça, c'était un élément qui a été mis de l'avant, que je pourrais dire comme ça, ou découvert, enseigné. Là, par exemple, pour être sauvé, il faut avoir la foi en Christ. Ça, ça a été la découverte en Christ seul, sa mort expiatoire, avoir une foi entière, avoir une foi personnelle, avoir une foi de cœur, donc pas juste intellectuelle, mais quelque chose qui est beaucoup plus significatif. Et là, une telle foi, ça allait accepter, ça allait recevoir, puis ça allait pouvoir se reposer en Christ uniquement pour obtenir la justification, c'est-à-dire le pardon des péchés, le fait que devant Dieu, je suis considéré comme étant pardonné, complètement gracié. Deuxièmement, la sanctification, c'est-à-dire que par, justement, l'œuvre de Christ, il va aussi m'aider à, maintenant, ma vie va changer, je vais grandir spirituellement grâce à Christ, et finalement aussi, je vais obtenir la vie éternelle. Donc, ça, c'était la foi. Mais cette foi aussi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas, comme c'est mentionné dans Hébreux chapitre 11. Cependant, avoir la foi n'élimine pas complètement la présence du doute et de l'anxiété. Voyez? Alors, je peux avoir la foi, elle est là, je l'ai cette foi-là, puis ça devrait être une ferme assurance, mais dans mon expérience de vie, je vis constamment avec du doute et je ne suis pas sûr si vraiment je suis sauvé, je ne suis pas sûr si vraiment ma relation avec Dieu est correcte, je ne suis pas sûr si vraiment Dieu il m'accepte vraiment, puis est-ce que ma foi est assez forte, est assez grande, donc il y a du doute et de l'anxiété, et encore moins en plus, il y a toujours la présence de la chair, donc malgré l'existence de la foi, l'expérience de la foi n'est pas tout à fait comme elle devrait être. Et là, ça emmenait comme Calvin ici, qui dit qu'il y avait un fossé qui existe entre l'existence de la foi puis l'expérience du croyant. Et là, il a écrit ceci, et là, je le cite. « En Christ, nous ne sommes plus dominés par la chair, mais par l'esprit. Toutefois, nous ne sommes pas encore complètement délivrés de la chair. » Ça, c'est la vérité aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a de la difficulté, c'est pour ça qu'on expérimente encore toutes sortes de choses, qu'on aimerait bien se débarrasser. Tant que cette tension existera pour le croyant, il va toujours y avoir un fossé entre l'existence de la foi et l'expérience réelle du croyant. Il va toujours y avoir une difficulté là, puis là, plus ou moins grande, dépendamment de quand, depuis quand on est sauvé, quelle est notre expérience avec Dieu jour après jour. Cette distance entre l'existence de la foi et l'expérience de la foi est expliquée en termes de conflit entre la chair et l'esprit dans lequel le croyant est impliqué, comme on voit dans les Écritures, entre autres dans Galates. Et là, ici, il dit « Cela fait partie du « pas encore », du « déjà » et « pas encore ». Oui, je suis déjà sauvé, mais pas encore complètement sanctifié, pas encore dans la présence de Dieu. Donc, le « pas encore » de la vie chrétienne, c'est-à-dire la difficulté de vivre ce que Christ a accompli pour moi et ce que je suis en lui. Voilà tout le dilemme dans lequel on vit. Puis chacun de nous, on vit ça à notre manière, là où on est. À certains moments, c'est mieux, à d'autres moments, c'est pire. Mais ça, c'est la réalité. Et là, il dit encore ceci, « La foi est un concept simple, mais son expérience au quotidien est une chose complexe. Comme êtres humains, nous sommes complexes, pour ne pas dire compliqués. » Et l'expérience de la foi a des répercussions sur l'image que l'on a de soi. Et en l'occurrence ici, comment est-ce que je me perçois en Christ? Et là, ici, il y a tout ce facteur-là personnel, avec un peu de subjectivité ici, puis l'expérience que j'ai avec Dieu. Donc, ça va affecter la réponse à cette question-là. Comment est-ce que je me perçois en Christ? L'expérience réelle de la foi est donc un processus spirituel et psychologique complexe par lequel confesser d'une part « oui, Christ est mort pour des pécheurs et donc je me repose sur lui » devient d'autre part « j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur ». Le degré d'assurance qu'une personne a, là ici, c'est l'expérience de la foi dans sa vie. C'est ça qui va venir faire la différence. Il est sauvé, mais son expérience du salut, là, c'est toute cette question-là de comment je vis ma relation avec Dieu. Et là, il dit, chez une personne, cette complexité peut être si magnifiquement simplifiée que sa complexité passe inaperçue. Autrement dit, ça semble pas si complexe pour certaines personnes. Tandis que pour d'autres, la complexité de qui ils sont, de leur image d'eux-mêmes, doit être pastoralement démêlée avant que le lien devienne clair et réel entre l'existence de la foi pour être sauvé et l'expérience de la foi pour en réaliser ses implications, c'est-à-dire pour goûter pleinement à tout ce que j'ai en Jésus et comment là je peux être délivré. Alors, Dieu... ici, c'est justement les choses que j'ai mis ici. Alors, Dieu aime-t-il ses enfants quand ils pêchent? Absolument oui, ça ne change pas son amour que pour nous, mais il n'aime pas leur péché, comme Hébreux 12, 5 à 11 et 1 Corinthiens 11, 31, 32. Ça, c'est clairement enseigné dans la parole de Dieu. Alors, est-ce que cela encourage le péché, le fait que Dieu m'aime quand même si je pêche? Est-ce que ça encourage le péché? Bien, si ça encourage le péché, c'est parce que vous ne comprenez pas bien l'Évangile, vous ne comprenez pas bien le coût que Dieu a dû payer pour l'Évangile. Parce que c'est sûr que ça ne devrait pas encourager. Romains 6, 1 et 2 dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché avec la grâce abonde? » Puis là, Paul y répond « Ben non! Comment arriver à une telle conclusion? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. » Autrement dit, le péché pour nous, c'est même plus aussi attrayant que ça l'est. Et si vous avez de la misère, justement, dans votre vie, puis qu'il y a des choses que vous trouvez ça difficile, bien ça, c'est une belle manifestation du fait que vous appartenez à Dieu. Parce que vous n'aimez pas certains péchés que vous pratiquez encore. Vous aimeriez ça être délivré. Mais c'est complexe. On est complexe. Là, la victoire maintenant dans le péché, Dieu veut nous la donner, puis il va nous la donner. Maintenant, l'expérience qu'on va en faire ici sur la terre va varier d'une personne à une autre. Et tant mieux si vous avez vu la libération de certains de vos péchés dans votre vie. Gloire à Dieu, c'est l'œuvre de Dieu et c'est ça qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vécu que ça change quelque chose dans l'amour que Dieu a pour nous. Voyez-vous la différence? Maintenant, l'expérience que j'en ai de ça, là, gloire à Dieu si vous avez une belle expérience de l'amour de Dieu dans votre vie. Alors, je termine avec ça. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir ce matin. Deux facettes de l'amour de Dieu. Et ça, c'est un peu ici pour nous encourager, puis en même temps pour nous montrer ce que la parole de Dieu enseigne. Apocalypse 2, 2 à 5. La première facette de l'amour de Dieu, c'est qu'on voit sa bonté malgré notre inconstance à l'aimer. Et là, ici, il parle à l'église d'Éphèse, puis il essaie d'encourager l'église d'Éphèse à revenir à son premier amour. Donc, on voit que Jésus, ici, il s'adresse à toute l'église. Naturellement, il ne s'adresse pas juste à une personne, mais on voit qu'il est en train d'essayer de gagner ceux qui ont goûté à son amour, à retrouver cet amour-là qu'ils ont manifesté envers lui. Puis là, il dit, oui, je sais que tu fais ça. Oui, je sais que tu es capable de ceci. Oui, je sais que tu es fort dans tel domaine. Mais la chose que j'ai contre toi, la chose que je voudrais qu'il revienne dans notre relation ensemble, c'est ton premier amour. Et là, il nous invite à nous repentir, il nous invite à nous examiner, puis il nous invite à repratiquer les premières œuvres. Et pour ça, ça veut dire redécouvrir ce que Jésus a fait pour moi. Revenir à la croix, revenir à son amour incroyable qu'il a pour moi. Et là, que maintenant, Seigneur, je puisse retrouver cette relation-là avec toi. Mais sa bonté, elle est la même malgré notre inconstance à l'aimer. Et là, Dieu va nous rappeler, nous ramener à lui constamment. Et le deuxième élément, c'est dans 1 Corinthiens 1, 4 à 9, c'est sa fidélité malgré notre état charnel. Et ça, c'est... Ici, c'est, en fait, j'ai gardé juste les versets 8 et 9, mais si vous voulez lire au complet, c'est 4 à 9. Ça dit ceci, et là, rappelez-vous, là, il dit ça à l'église de Corinthe. J'ai fait toute une série sur l'église de Corinthe, puis l'église de Corinthe, ce n'est pas l'église modèle, là. Hein? Il y avait beaucoup de problèmes là, dans l'église de Corinthe, beaucoup de problèmes, on aurait dit, pouf! Mais pourtant, il dit ceci, au début de sa lettre, avant même d'aborder tous les problèmes avec eux, il dit ceci concernant Dieu, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il affirme, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Autrement dit, malgré le fait qu'on a de la misère, qu'on a de la difficulté, Dieu, il s'est engagé à réaliser l'œuvre de Christ dans notre vie. Et il va nous emmener à être irréprochables devant lui. Amen? Amen. Et ça, ça devrait nous motiver de dire, Seigneur, toi, tu me regardes, tu vois ma vie, tu vois que je ne suis pas tellement satisfait de ma relation avec toi, de mon expérience de la foi. Il y a tellement de choses que j'aimerais que ce soit différent. Il y a tellement de choses que j'aimerais expérimenter dans ma relation avec toi, mais je ne suis pas là. Dieu dit, je connais ton cœur. Je sais les difficultés que tu as. Viens vers moi. Viens vers moi, OK? Moi, laisse-moi prendre soin de toi. Parce que moi, je veux accomplir l'œuvre, puis je vais l'accomplir en passant. Peu importe l'expérience de vie qu'on va avoir vécue sur la terre, c'est sûr que Dieu veut qu'on vive le maximum. Dieu voudrait tous qu'on arrive à la stature parfaite de Christ pendant notre expérience sur la terre. Mais je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle ce matin. Ça ne sera pas le cas. Je ne suis même pas... Pour moi-même, là, malgré les victoires, les choses que je vois que Dieu a faites dans ma vie, je ne pourrais même pas dire, oh, moi, je suis rendu à la stature parfaite de Christ. Ce serait vraiment présomptueux de ma part de dire une telle chose. Mais je sais que j'ai le désir. Je veux avancer. Des fois, je pleure sur mes incapacités, sur mes difficultés, sur mon manque de foi, mon manque de confiance en Dieu. Puis là, savez-vous ce que Dieu fait à chaque fois? À chaque fois que là, je répands mon cœur comme ça devant Dieu, Dieu, il me ramène à la croix. Puis il me dit, garde Benoît, j'ai tout fait ça pour toi. Je l'ai accompli. Je sais ta faiblesse. Je sais ta difficulté. Je connais ton cœur. Je sais à quel point, un peu comme, pas Job, là, mais Sodome et Gomorre, Lot, quand il souffrait de voir qu'est-ce qui se passait, malgré tous les défauts qu'il y avait dans sa vie, voyez? Mais il était malheureux. était malheureux de voir toute cette misère, ce chaos, ce péché qu'il y avait autour de lui. Il y avait une soif que, dans le fond, que Dieu soit davantage honoré. Dieu, il le voit, ça. Il le voit dans nos vies à quel point qu'on en arrache. Puis il voudrait juste nous rassurer et dire, « Fais-toi-en pas, fais-toi-en pas. Laisse-moi juste venir dans ta vie. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu vas voir à quel point je t'aime. Et tu vas voir que mon amour peut faire beaucoup dans ta vie. Lâche pas. Arrête de regarder à toi-même. Regarde un peu plus à mon fils. Moi, je te vois juste à travers mon fils. Puis tu me donnes de la joie. Moi, je te regarde, puis c'est incroyable la joie que j'ai. Puis je sais qu'un jour, tu vas être ici avec moi, puis il n'aura plus de chair, il n'aura plus de lutte, il n'aura plus de fossé. Tout va être accompli. Mais c'est ça que je regarde, moi. Je ne regarde pas juste ce que toi, tu regardes. Alors, reviens, replace tes yeux à la bonne place. Reviens au trône de la grâce. Reviens vers moi, mon fils, ma fille. Je veux prendre soin de toi. Je veux te donner tout l'amour que j'ai pour toi. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Le croyez-vous ce matin? Amen. Allez vers lui. Faites cet exercice cet après-midi ou cette semaine. Seigneur, est-ce que ton amour envers moi, j'y goûte comme je devrais y goûter? Y a-t-il quelque chose que, Seigneur, tu voudrais me montrer pour que ton amour soit encore plus vivant, plus vibrant dans mon cœur? Montre-moi le, Seigneur. Remonte-moi ton amour. Fais-moi redécouvrir la croix pour que je puisse t'apprécier à nouveau et laisser ton Saint-Esprit déverser dans mon cœur ton amour. Seigneur, est-ce que mes yeux sont davantage sur moi que sur toi? Et c'est pour ça que je suis découragé. C'est pour ça que l'ennemi a autant d'emprise sur moi parce qu'il dit penses-tu que Dieu, voyons donc, regarde comment ce que t'es, regarde là, t'es encore tombé dans ce même mot, t'as dit péché là, puis tu penses-tu que Dieu vraiment, là, voyons donc, c'est des histoires ces affaires-là, Dieu, il y en a la claque avec toi là, non, on disait, arrière de moi Satan, non, c'est pas vrai ça, Dieu il m'aime à travers son fils Jésus. Il m'a donné son fils Jésus. Il n'y a rien que je peux faire qui va changer son amour envers moi. Il n'y a rien de plus que je peux faire. Puis il n'y a rien de moins ou il n'y a rien de grave que je peux faire qui ne m'aimera plus. Ah oui, c'est sûr qu'il n'aimera pas mon péché. C'est sûr qu'il n'aime pas quand je me détourne de lui. Mais changer son amour vis-à-vis de moi, c'est pas vrai ça. Décolle. Non. Moi, je crois que Jésus m'aime et que Dieu m'aime tel que je suis, même si je ne le mérite pas. Merci Seigneur. Et vous allez voir ce que ça va faire dans votre cœur. Alors que Dieu bénisse ce matin sa parole et qu'il vous rencontre. Amen.